Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Caroline Beauregard avec qui on va parler de l'école d'été en art-thérapie de l'UQAT. Plus tard à l'émission, nous recevons Stéphane Bellumeur qui nous parle des 20 ans de l'alternative. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera le génie de la folie. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Dumas et la chanson s'intitule « Mes idéaux ». Bienvenue à Folie Douce.
La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie Douce.
Je suis en compagnie de mon invitée qui est Caroline Beauregard. Bonjour, Mme Beauregard.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission Folie Douce. On va parler ensemble d'une école d'été un peu spéciale en art-thérapie, parce que vous êtes art-thérapeute et professeur en art-thérapie à l'UQAT, en fait, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Exactement.
C'est rare qu'on parle de l'UQAT, mais ça va nous donner l'occasion d'ailleurs d'en parler. C'est fort intéressant, ça semble intéressant comme projet. Comment on peut présenter justement, d'abord peut-être juste situer l'art-thérapie, tu sais, on entend parler souvent, il y a des art-thérapeutes, c'est plus présent qu'autrefois, mais qu'est-ce que c'est l'art-thérapie?
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est exactement, on commence à en entendre parler, mais tout le monde a un peu notre vision de ce qu'est l'art-thérapie, et c'est sûr que chaque art-thérapeute est différent, mais ce que tous les art-thérapeutes ont en commun, c'est qu'ils travaillent bien sûr avec les matériaux artistiques, donc quelqu'un qui va voir un art-thérapeute, c'est sûr qui va faire de la création.
Ouais.
Donc, c'est de prendre le processus de création artistique comme une façon d'explorer un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, les émotions, notre vécu, un peu d'essayer de prendre, faire de l'introspection sur nous-mêmes, essayer de nous comprendre et d'avancer, de croître dans ce processus-là.
Est-ce que l'art-thérapie, ça peut s'appliquer à toutes sortes de, à toutes sortes d'arts, là? Est-ce qu'on parle plus de création manuelle ou si ça peut être autre chose, l'art-thérapie?
Mais en fait, il y a des différences selon la région du monde où on est.
Ouais.
Ici, au Québec, on appelle art-thérapie tout ce qui est les arts visuels. Donc, on parle du dessin, de la peinture, de la sculpture en général.
Ouais.
Si on va en Europe, par exemple, les arts-thérapies vont inclure aussi tout ce qui est le théâtre, la danse, la musique, l'expression corporelle. Donc, c'est un peu plus large.
OK. Et pourquoi avoir choisi justement l'art-thérapie? Parce que vous êtes art-thérapeute, puis la plupart des gens que je rencontre qui sont art-thérapeutes sont passionnés de leur travail, de leur implication, de leur profession, en fait?
Bien, en fait, c'est un peu par hasard que c'est arrivé. J'étais dans un cours à l'université en anthropologie et la professeure était anthropologue et art-thérapeute.
Mm.
Et c'est un peu par là que j'ai connu l'art-thérapie. Et pour moi, c'était une façon que je trouvais assez originale et assez intéressante de s'exprimer autrement que par les mots. Parce que des fois, trouver les mots, c'est pas toujours évident, de prendre du recul. Et on s'entend aussi que la création artistique, c'est généralement plaisant.
Mm-hmm.
Donc, je trouvais que c'était une façon d'aborder là, l'aspect plus psychologique de l'être humain, mais par un aspect ludique aussi.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi d'aller aussi travailler pour vous ou les gens qui bénéficient de l'art-thérapie d'un peu jouer en se guérissant. Mais il y a quelque chose de effectivement ludique, puis il y a quelque chose d'agréable dans ce processus-là qui est plus doux que peut-être d'autres processus.
Tout à fait. C'est ça. C'est moins menaçant, mais il ne faut pas non plus se leurrer et se dire que si on entreprend un processus art-thérapeutique, que ça va toujours être plaisant. Parce que si on regarde un peu nos bébites, c'est sûr que des fois, ça peut être douloureux.
Ça peut faire mal, mais à quelque part, ça doit être, ça va faire du bien d'une certaine façon. Ça va, c'est un exutoire.
Exactement. Là, exactement. Okay.
Si on revient maintenant au projet, donc l'école d'été d'art-thérapie, c'est une première édition cette année que vous avez organisée. Comment ça s'est mis en branle, en fait, cette organisation-là?
Bien, en fait, c'est qu'on cherche à répondre à différents besoins. Parce que l'art-thérapie à l'UQAT, d'abord, a été offert en Abitibi-Témiscamingue.
Oui.
Et ensuite, bon, aussi à Sherbrooke, mais ensuite à Montréal. Et on cherchait à redonner un peu à la région, à l'institution mère, ce qu'elle avait offert aux gens. Mais aussi, on rencontre souvent des art-thérapeutes, soit des finissants ou des professionnels qui sont en pratique et qui ont un besoin de formation continue. Et malheureusement, il n'y a presque rien qui est offert en termes de formation continue en art-thérapie, autre que les formations universitaires là, qui mènent à la pratique.
Ouais.
Donc, on cherchait, c'est ça, à offrir ça aux membres art-thérapeutes. Et aussi, on a construit l'école d'été d'une façon à ce que plusieurs arts, on parlait tout à l'heure, l'art-thérapie au Québec, c'est les arts visuels, mais là, on a inclus par exemple la dramathérapie aussi dans notre offre de formation continue pour ouvrir finalement là, les champs, là, les horizons ouais. là, pour les professionnels.
Ça va permettre justement d'être toujours à jour, en fait, ou d'être toujours à l'affût. Puis, il y en a combien d'art-thérapeutes au Québec? Est-ce que c'est répertorié? Ouais?
Oui, mais en fait, il y a l'Association des art-thérapeutes du Québec. Donc, c'est sûr que c'est pas une obligation d'être membre, mais on a déjà une bonne idée là, du nombre d'art-thérapeutes.
Ouais.
On n'est pas beaucoup. On parle, je sais pas, en fait, je pourrais pas vous dire de façon précise les chiffres, mais je dirais peut-être une centaine, 150.
Ouais,
parce que c'est quand même assez niché.
Oui, puis c'est assez récent. T'sais, on en parle, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des passionnés qui le font. Il y a des histoires là, de peut-être des années 70, quand, c'était des pionniers. Il y avait
exactement.
Un ou deux personnes peut-être à Montréal, dans un hôpital ou quelque part, qui avaient réussi à faire de l'art-thérapie. Mais là, ça se pratique où, l'art-thérapie? Est-ce que ça se pratique dans les milieux hospitaliers encore? Est-ce que ça se pratique pratique oui. plus dans les organismes, un peu partout?
C'est ça, un peu partout. Autant dans les hôpitaux, comme vous le disiez, dans les CLSC, les écoles, écoles primaires, secondaires, les organismes communautaires, pratiques privées, donc un cabinet privé. Dans le fond, c'est un peu comme n'importe quel autre professionnel. Si l'organisation est prête à accueillir un art-thérapeute, bien les art-thérapeutes peuvent y travailler là, sans problème. Là.
Oui. Et quand vous abordez comme art-thérapeute, c'est sûr que vous êtes art-thérapeute, mais vous êtes professeur aussi. Mm-hmm. C'est juste un peu les deux côtés. Vous êtes capable de comprendre aussi le terrain, mais vous pouvez l'enseigner également. Mais quand on aborde une problématique, comment on l'aborde? Parce que comme on disait, il y a des gens bon, qui ont beaucoup de trucs enfouis en eux, il y a beaucoup de souffrance, ça. Donc, comment on doit gérer ça? Parce que c'est beau de connaître la technique de l'art, mais gérer l'émotion humaine, on fait comment? Là?
Mais en fait, c'est beaucoup de savoir-être.
Oui, l'écoute et tout ça aussi.
Exactement,
hein?
L'écoute, l'accueil. L'accueil, le non-jugement. Parce que je trouve que c'est un gros frein, parfois, le jugement à l'expression, parce que si on a peur que l'autre personne réagisse mal, c'est sûr qu'on ne s'exprimera pas.
Mais il se passe quoi? Tu sais, si la personne, je sais pas, je vous donne un exemple, c'est un exemple comme ça, mais quelqu'un fait de la peinture rouge, mais tu sens qu'il y a de la souffrance, qu'il y a quelque chose qui sort. Il faut intervenir, j'imagine, puis la personne est en pleurs, par exemple. Donc, c'est une situation que c'est d'écoute, mais c'est pas évident, là.
Mais en fait, la pratique art-thérapeutique, ben, qui est aussi d'autres pratiques là, psychothérapeutiques, mais il y a toujours le cadre. On parle du cadre sécuritaire qui est autant... Le cadre peut être la pièce où on se trouve. Le cadre peut être, justement, vous parliez de peinture, ben, le canevas, le papier représente aussi un cadre. Donc, on essaie de... Si on voit que la personne se désorganise, on essaie de la recadrer pour recanaliser ses énergies de façon positive.
Okay.
Donc, on peut, par exemple, proposer de changer le format du papier. Si un trop grand format ou si la peinture, c'est trop difficile en ce moment, on va jouer avec les matériaux, avec les outils, les supports, pour faire en sorte que ça réponde aux besoins du moment de la personne.
Oui. Donc, c'est ça, c'est de beaucoup d'écoute, ouais. S'adapter, être prête à réagir à toutes les situations. Il n'y a jamais une journée pareille comme art-thérapeute. Hein,
exactement.
C'est ça? Donc, on parle de l'école d'été en art-thérapie. Idéalement, vous souhaitez quoi comme résultat? C'est parce que vous voulez certainement le ramener d'année en année. C'est sa première édition en 2018. J'imagine que c'est quelque chose que vous voulez poursuivre pour justement permettre d'avoir une formation continue. Mais on vise quoi avec l'école d'art-thérapie à moyen-long terme?
En fait, on offre deux cours universitaires qui sont intégrés à ce qu'on appelle le micro-programme de deuxième cycle en art-thérapie, qui est, dans le fond, des cours un peu plus d'introduction à la formation art-thérapeutique. Donc, si les gens veulent poursuivre par la suite leur formation, ils pourront le faire. Donc, on a ça. Les formations continuent, bien sûr, on en a cinq. Donc, comme je vous disais, là, qui vont aller toucher différents aspects. Donc, on cherche à ce que les formations soient, bien sûr, comblées, les espaces de participation comblés. Mais c'est surtout, je pense, une façon de faire connaître l'art-thérapie.
Oui. C'est ça, parce que ça pourrait s'adresser aussi, dans le fond, c'est d'ouvrir, d'en faire parler, puis de faire
oui.
en sorte que, ouais.
Et justement, vous me faites penser que c'est pas juste ouvert aux futurs art-thérapeutes ou aux diplômés en art-thérapie,
ouais.
mais c'est ouvert, par exemple, à, je sais pas, moi, une éducatrice qui serait intéressée à travailler avec les arts, avec les enfants, travailleuse sociale, donc d'autres professionnels.
Donc, ça pourrait être adapté à quelqu'un qui a pas tant de connaissances, mais qui est intéressé par le sujet, là.
Exactement, c'est une première entrée en matière.
Oui, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier ça, mais on parlait tantôt de différents types d'art-thérapie à travers le monde. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont inspirantes puis qu'on pourrait éventuellement justement s'inspirer ici même pour mettre de l'avant? T'sais, l'art-thérapie doit exister depuis très longtemps, ça ne s'appelait pas comme ça. Il y a peut-être des façons de faire dans des pays qui ont plus peut-être d'historique en termes d'art, là.
En fait, il n'y a pas beaucoup tant que ça de pays là, qui en font de l'art-thérapie,
non.
Mais la beauté de l'art-thérapie, c'est que ce sont des créateurs qui sont dans ce domaine-là. Donc, l'art thérapie a déjà de multiples visages. Donc, oui, on peut s'inspirer de d'autres pratiques, mais je pense que c'est déjà suffisamment ou assez diversifié, là.
Oui, c'est ça. Les gens qui veulent en savoir plus, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens... d'abord, est-ce que les cours se donnent dans la région de Montréal? Est-ce que ça se donne en Abitibi-Témiscamingue? Ou est-ce que... comment ça se passe, les...
Bien, pour justement, comme je le mentionnais, pour redonner un peu les lettres de noblesse à Lucas, ouais. Ça se donne à Rouyn-Noranda. Ouais. Donc, c'est au mois de juin.
C'est l'été, en fait, c'est ça?
Exactement, l'école d'été. Et les cours universitaires sont offerts de façon intensive, donc une semaine intensive. Les formations continues sont d'une durée de 1, 2 ou 3 jours.
OK.
Et donc, les gens peuvent s'inscrire, peuvent aller consulter le site web qui est u4.ca/École-Art-Thérapie.
Ouais.
Donc, ils vont avoir l'information, description des cours, comment s'inscrire et les numéros de téléphone et coordonnées des personnes à contacter.
C'est ça. Et si les gens n'ont pas pu le noter, ben, j'imagine qu'en cherchant École Art Thérapie U4, on devrait UQAT, là, on devrait tomber dessus. Là. Il ne doit pas en avoir
exactement.
Des dizaines qui portent le même nom. C'est fort intéressant. Avez-vous quelque chose à rajouter? Il reste juste comme 30 secondes, mais c'est très bien.
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Caroline Bourgard. Donc, art thérapeute et professeur en art thérapie à l'U4. Puis bonne chance avec ce projet-là, espérant que ça revienne d'année en année. C'est toujours.
C'est ce qu'on espère.
Oui, merci beaucoup et bonne
merci.
Chance. Au revoir.
Au revoir.
Tellement ma tête, mon matin est mouillé. Si tu n'aimes pas. Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie Douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Justin Malo.
Bonjour.
Alors, le sujet aujourd'hui amené, tu as toujours un peu d'imagination sur tes sujets, Pierre. C'est toujours intéressant de voir quel sujet tu vas nous amener cette semaine. C'est le génie de la folie.
Oui, ça, c'est un titre que j'ai donné à ma chronique aujourd'hui.
Oui.
Mais en fait, l'article s'appelle « Pas de génie sans un grain de folie ». Et ça, c'était une phrase d'Aristote. Oui. Donc, c'est pas d'aujourd'hui.
Mais c'est vrai quand même. Le génie, oui. On a toujours dit qu'il est assez proche de la folie, effectivement.
Oui, mais on n'avait pas de preuves médicales ou scientifiques. Mais là, les choses sont en train de changer.
Okay.
Et on commence à savoir que oui, il y a des liens, si on veut, des liens génétiques prouvés maintenant, que la créativité et la maladie mentale partagent beaucoup de choses.
Ben, tu parles là de sommité, vraiment des gens qui sont au top de leur domaine.
Oui. Dans le exactement.
Génie, ouais. Ben, c'est intéressant.
Ah, oui, alors je vais vous lire en fait l'article au complet, si j'ai le temps, de M. Clément Guillet, qui est psychiatre et journaliste. Il nous dit, sorti en 2012, le film Maniac de Frank Calhoun. Est-ce que tu l'as vu, Ghislain?
Ça, c'est un film d'horreur, je pense. Moi, je suis pas très fan de films d'horreur.
Moi, je connais pas.
Je sais que tu es un cinéphile.
Oui.
De toute façon, ce film embarque le spectateur en caméra subjective dans la tête d'un psychopathe tueur en série. Interprété par le frêle Elijah Wood, se déséquilibré lorsqu'il ne tue pas sauvagement de jolies jeunes femmes, passe son temps à confectionner des mannequins avec leur scalp. Un artiste capillaire. Dangereux malade mental à ses heures perdues. Les fous et les artistes ont souvent été mélangés. D'Antonin Artaud à Camille Claudel, les troubles psychiques et le souffle de la création ont longtemps semblé aller de pair. Une étude vient de vérifier ce pressentiment et démontre qu'il existe des liens bien réels entre les deux. Et comme je le disais en ouverture, Aristote avait dit « Il n'y a pas de génie sans un grain de folie ». Il disait « Tous les hommes exceptionnels du passé en philosophie, en politique, en poésie ou dans les arts étaient-ils manifestement mélancoliques? » Cette idée est renforcée par l'archétype romantique de l'artiste maudit hérité du 19e siècle. La créativité semble alors associée à la maladie mentale et aux addictions diverses. Van Gogh, Maupassant, la liste est longue des artistes dont la vie et l'œuvre sont marquées par les pathologies psychiatriques. Et la folie créative n'est pas l'apanage des artistes. L'image du savant fou est aussi classique. À l'instar d'Einstein, mon ami Albert...
Ouais, c'est un de tes préférés, effectivement.
Oui, lui qui aurait été peut-être atteint du syndrome d'Asperger ou du génial mathématicien John Nash, prix Nobel d'économie et schizophrène dont la vie fut mise en scène dans...
Un homme d'exception.
Exactement.
Bravo.
Les diagnostics psychiatriques posthumes se multiplient et les psychobiographies tentent d'expliquer certaines œuvres. Les hallucinations de Van Gogh lui auraient, par exemple, inspiré ses tableaux. Et la théorie de la gravitation de Newton tiendrait... plus, tenez-vous bien, aux troubles bipolaires qu'à une pomme.
Donc, finalement, une chance qu'il y ait eu des problèmes de santé mentale. Tu sais, quand on regarde ça, il y a un côté extrêmement positif.
Bien,
ça.
On peut se poser la question, oui.
Tu sais, sinon, il y a personne qui sort de la norme, en fait. C'est un peu ça.
Mais il y a aussi des génies qui n'ont pas de problèmes de santé mentale. Mozart n'était pas... Il était précoce, mais pas... Je pense pas qu'il y avait des problèmes de maladie mentale, ni Beethoven.
Alors, Monsieur Guillet poursuit en disant « La folie est tellement associée à l'archétype de l'artiste excentrique qu'elle est même devenue indissociable. De Dali au groupe Green Day ou Eminem, passé pour un fou est devenu un classique. » Presque un must-have sur un CV d'artiste. Un culte de l'artiste fou, comme si la formation pour avoir ce statut n'était plus les beaux-arts, mais un séjour à l'hôpital psychiatrique ou en centre de désintox. Certains comme Jean Dubuffet, peintre et sculpteur français, le père de l'art brut.
Ouais. Notre ami Édouard nous en avait déjà parlé il y a très longtemps, les historiens de l'art.
Ouais. Oui, alors...
Jean Dubuffet.
Oui, alors certains ont voulu dissocier maladie mentale et créativité. Et selon la formule qu'on lui attribuait, le créateur de l'art brut issu des hôpitaux psychiatriques estimait ici qu'il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des malades du genou. Rappelant ainsi que tous les créatifs ne sont pas des malades mentaux, ni tous les malades mentaux des créatifs.
Ben, c'est un peu ce que tu disais.
Oui, moi, je suis plus d'accord avec cette théorie-là, par
exemple. Sinon, on généralise la question, mais je trouve quand même intéressant de voir qu'il y a quelque chose de positif, moi, si je le prends de cette façon-là.
Il y a aussi des gens qui ont des torts personnels, tu sais, comme l'alcoolisme, c'est pas, tu sais, ils vont dire que c'est une maladie, mais c'est un problème, ou tu sais, une personnalité difficile au lieu que d'être une maladie mentale pure, là.
Oui, c'est complexe, l'alcoolisme. Oui. Alors, on dit dans l'article, pourtant, une étude menée par le docteur Simon Kiaga de l'Institut suédois Karolinska montre qu'il existe bel et bien un lien entre les personnes créatives et les maladies mentales. En suivant l'évolution de 1 173 763 patients des services de psychiatrie et de leurs proches sur une durée de 40 ans, les chercheurs ont étudié les rapports entre professions créatives, c'est-à-dire les artistes, les chercheurs, les musiciens, et les pathologies mentales, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire et la dépression. Celles-ci répertoriées grâce à une échelle de référence internationale. Au final, cette étude ne montre pas de lien général entre professions créatives et troubles psychiques, à l'exception du trouble bipolaire. Mais pris à part, les écrivains se révèlent être de manière significative plus à risque pour toutes sortes de pathologies psychiatriques.
Comme à notre habitude, on va pouvoir poursuivre. On va faire durer le plaisir plus longtemps, l'espresso allongé. Donc, le génie de la folie, un excellent sujet. Pierre, merci. Merci, Justine. Demeurez là en tête de Folie douce.
La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
J'accueille maintenant mon invité qui est Stéphane Bellumeur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Yvan.
Bonjour, c'est un plaisir de te recevoir en studio. Tu fais partie un peu de l'équipe de Folie douce depuis un bout de temps. Tu as déjà participé à nos émissions et tu t'impliques aussi à une ressource communautaire qui est l'Alternative dans l'est de l'île de Montréal. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui parce qu'il y a un 20e anniversaire, je pense, qui est souligné cette année.
Ben oui, tout à fait. Cette année, en 2018, l'Alternative Centre de jour en santé mentale fête ses 20 ans.
Ouais.
Alors, beaucoup de choses au menu cette année, beaucoup de nouvelles choses au niveau de la programmation, au niveau du centre comme tel, beaucoup de changements. Alors, je suis venu faire mon petit coucou pour parler un peu de l'alternative, puis me joindre à vous.
C'est quand même un exploit, 20 ans, à donner des services. On va expliquer aussi qu'est-ce qu'on peut y retrouver, l'alternative, parce que l'alternative, c'est un modèle, je dirais, c'est comme un modèle qu'on connaît depuis des années, tu sais, au niveau de la santé mentale, un centre qui permet à des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale d'aller fraterniser, d'aller prendre des formations, d'aller voir d'autres mondes, finalement briser l'isolement puis vivre une meilleure santé mentale. C'est un peu ça.
Tout à fait. À l'alternative, les services qui sont offerts pour les clients vont vraiment dans tous les sens. Hein. On peut y retrouver, que ce soit des cafés-causeries, des cours de cuisine, il y a des cours aussi ça peut être de gestion de la colère, de connaissance de soi. Il y a beaucoup de diversité au niveau des groupes à l'alternative.
Oui. Et si tu peux nous expliquer comment ça se passe, disons, c'est un local que c'est quand même assez grand, là, sur deux étages, je ne me trompe pas, mais comment ça se passe au quotidien, tu sais, du lundi au vendredi, ou êtes-vous ouvert aussi les week-ends?
Bien, nous, on est ouvert du lundi au jeudi. On offre même les dîners. Il y a des séances le matin, il y a des séances l'après-midi. C'est des groupes de deux heures. Et puis, on peut dîner ensuite à l'alternative. On peut soit amener son lunch. Maintenant, il y a même des repas qui sont offerts suite à des cours de cuisine et à des articles aussi qu'on achète. Donc, vraiment, là, l'alternative a vraiment grandi en année, mais vraiment au niveau de ses membres, au niveau des ressources en même temps.
Donc, c'est de trouver, finalement, vous avez, il y a comme une panoplie d'activités qui vont comme aider les personnes à mieux s'organiser, quoi, à vivre une meilleure vie, à s'éduquer.
À s'éduquer, puis surtout à se redonner une deuxième chance. Nous, à l'alternative, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien. Puis, il y a vraiment une diversité au niveau des activités, ce qui permet aux gens de choisir ce qui leur plaît à eux.
Mm-hmm.
Alors, à ce moment-là, les gens, au début, qui viennent pour la première fois, peuvent commencer par une activité. Puis par la suite, on peut passer à deux ou à trois, dépendamment, mais les gens, ils vont à leur rythme, vraiment.
Qui sont les clients ou les usagers de l'alternative? Qui va à l'alternative? Comment on peut expliquer ça? Parce que c'est des gens qui ont eu un problème de santé mentale. C'est pas écrit dans leur visage. C'est pas une problématique physique. C'est pas un handicap visible. Donc, comment on peut définir qui va à l'alternative?
Bien, comme tu l'as si bien dit, des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, souvent qui ont été référés ou qui ont été hospitalisés. Et puis, par la suite, ben les gens nous appellent, prennent un rendez-vous avec nous, puis on les emmène visiter le centre. On explique le procédé, puis c'est d'une clientèle de 18 ans et plus. Je te dirais, homme-femme, pas mal, moitié-moitié.
Ouais.
Puis, c'est ça, les gens viennent visiter en premier. On une visite des lieux avec les intervenants, une programmation des cours qui s'y donnent. Et puis, après ça, ben c'est à eux de décider s'ils veulent. Mais on a toujours un bon roulement. C'est ce qui fait, avec les années, que le 20e, même, on est en croissance. Fait que c'est encourageant de voir que les gens maintenant s'isolent moins, puis ils viennent, puis trouvent des réponses à leurs questions, puis à leur bien-être.
Et que, quand on parle de santé mentale, ça peut être une dépression majeure, ça peut être un problème de schizophrénie, ça peut être un problème de maniaco-dépression, ça peut être plein d'autres choses. Il y a toutes sortes de problématiques, puis ça touche tout le monde. On le rappelle souvent à l'émission, mais quelqu'un peut être très bien, puis tout à coup, beaucoup de stress dans sa vie, des coups durs. Sa vie, sa santé mentale bascule, puis c'est ça ensuite qu'on essaie de se rétablir. Donc, vous venez en aide sûrement à des gens qui veulent s'en sortir.
Ouais, comme tu l'as si bien dit, hein, y a plusieurs causes au niveau de la maladie mentale, que ce soit la dépression, la schizophrénie ou d'autres choses. Les gens, ils viennent, puis nous, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas rien, puis il y a vraiment une belle équipe à l'alternative, puis les gens, ils sont bien, puis...
Ouais. Moi, je vous ai connu il y a 5 ans, justement, dans le coin du 15e anniversaire, en fait. J'avais eu l'occasion d'aller vous voir de façon hebdomadaire pour justement faire des ateliers Folie Douce, donc des ateliers un peu particuliers où on pouvait développer un projet. Puis ça m'avait beaucoup touché, l'implication des gens. Puis il y a une personne que je me souviens encore de cette personne-là, Raymond, qui est malheureusement décédée pendant le processus des ateliers, donc pendant le processus de production d'une production commune qu'on faisait. Puis ça avait comme, d'une certaine façon, donné un choc à tout le monde, mais en même temps, ça avait comme soudé tout le monde en disant « on va pousser à bout, on va arriver à la fin de ce projet-là et on va le réussir, entre autres pour Raymond. »
Raymond, c'était la mère spirituelle de l'alternative. Raymond était là depuis les tout débuts.
Ouais.
C'était quelqu'un qui s'impliquait beaucoup pour les autres bénévolement, puis qui était très, très, très attaché. Elle appelait l'alternative sa deuxième famille, puis vraiment, l'idée du projet était superbe. Malheureusement, Raymond nous a quittés trop tôt. Elle avait eu le temps de faire sa partie au niveau du projet, et puis on avait même rendu hommage à la toute fin, là, mais même encore à ce jour, Yvan, à l'alternative, on parle encore du projet radio qu'on avait fait, puis on a encore les CD de ça, puis c'était vraiment un beau succès, puis une belle expérience.
Qu'est-ce que ça le fait? Parce que toi, tu as connu ça aussi depuis longtemps, mais comment les gens se sont, parce que c'est une personne importante, c'est un gros morceau dans l'organisme, il y a 5 ans, elle est décédée il y a 5 ans, en fait,
c'est
juste avant le 15e anniversaire, on fête le 20e cette année. Qu'est-ce que ça l'a brassé ou comment vous avez pu comme vous refaire une identité parce qu'elle comptait beaucoup pour l'organisme?
Ben, dans un premier temps, il y a maintenant la salle qui a été baptisée la salle Raymond Constant.
Ouais.
Et puis, on a rendu hommage à Raymond peu après son décès. Puis les gens qui sont là-bas, on la sent toujours parmi nous. La salle est à son nom. On se rappelle tellement de bons souvenirs, puis qui elle était, puis tout ce qu'elle a apporté pour le centre. Parce que Raymond, il ne faut pas oublier que c'était une membre de l'alternative, une bénévole, mais qui s'impliquait pour les autres beaucoup. Mm-hmm. Puis on n'a jamais oublié ce qu'elle était, ce qu'elle apportait, ce qu'elle faisait pour nous. Alors, c'était vraiment... Les liens se sont serrés. C'est toujours une perte, mais on la sent présente parmi nous à l'alternative. Quand on est à l'alternative, on sait que Raymond est là quelque part avec nous.
Comment les gens peuvent participer à vos activités? Est-ce que c'est des gens absolument du coin, de l'Est de Montréal? Ou comment ça fonctionne?
Bien, au fait, on a des gens qui viennent de partout. On a une bonne majorité des gens qui viennent de l'Est de Montréal, mais on a des gens qui viennent un peu plus partout maintenant. Nous, c'est très facile. Hein. Notre adresse, c'est le 11813 rue Notre-Dame-Est. Alors, au métro Honoré-Beaugrand, on peut prendre l'autobus 189S. C'est tout près de Saint-Jean-Baptiste et Notre-Dame. Et puis, sinon, les gens peuvent venir sur notre site au www.l'alternativecentredejour.org. En un mot, donc l'alternativecentredejour.org. Et puis, au téléphone, c'est le 514-640-1200. Dans le 514-640-1200. Vous pouvez appeler, prendre un rendez-vous, venez prendre un petit café avec nous, vous allez adorer ça.
Ouais.
Il y a une belle équipe à l'alternative.
Non, c'est vraiment un beau lieu. J'aimerais ça qu'on accorde quelques minutes, Stéphane. C'est intéressant d'en entendre plus sur l'alternative, mais j'aimerais ça parler un petit peu du portrait, si tu veux, de l'Est, de Montréal. Tu sais, ça, c'est souvent une région qui vous êtes sur l'île, mais on a l'impression que vous êtes en banlieue, tellement que c'est pour certains, vous êtes loin du centre là, de Montréal. Comment tu pourrais décrire ce coin-là? Puis, en rapport aussi avec la santé mentale, comment c'est au niveau du dynamisme des organismes?
Malheureusement, pendant trop d'années, les gens avaient des préjugés sur Pointe-aux-Trembles, sur tout ce qui était l'Est, mais ça a beaucoup changé depuis les dernières années. Beaucoup de choses sont construites, que ce soit autant Pointe-aux-Trembles que Rivière-des-Prairies. Ouais. On a quand même bien grandi, puis... Maintenant, c'est ça. Il y a beaucoup de... Notre clientèle vient beaucoup d'ailleurs, puis on sent même beaucoup d'intérêt des gens. On dirait que le mot se passe. Il y a beaucoup de gens de d'autres centres ou d'autres ressources qui nous appellent puis qui viennent, puis que finalement, ben c'est pas ce que le monde pensait. Pointe-aux-Trembles a beaucoup grandi, beaucoup grossi avec les années, là.
Et les organismes communautaires se portent assez bien. Il y en a plusieurs. Il y a des pionniers qui ont été fondés quand même dans l'Est de Montréal depuis longtemps. Là, après qu'il y a eu beaucoup de fermetures, de coupures de services dans les hôpitaux, les gens ont dû créer des organismes. Puis Pointe-aux-Trembles, le fait que c'était pas très loin de l'hôpital Louis-H. Lafontaine à l'époque, j'imagine que ça a dynamisé le coin pour ça aussi.
Faut pas oublier que l'image de l'Est de Montréal a beaucoup changé avec les années. Vraiment, là, dans l'Est de Montréal, j'ai inclus beaucoup Pointe-aux-Trembles, beaucoup de choses ont beaucoup changé. Plus agrandi, plus de ressources, beaucoup plus de choses. On n'est plus dans l'image des années 70-80. On a vraiment une belle image. On a beaucoup de belles choses dans l'Est de Montréal, dans la pointe de l'île, entre autres.
Mm-hmm. Puis il n'y a plus non plus autant d'activités au niveau des raffineries. C'était souvent associé à la production de pétrole, puis tout ce qui s'ensuit, là, peut-être la qualité de l'air ou autre. Là.
Souvent, c'est ça. Les gens avaient peut-être une mauvaise image de l'Est, mais les gens, s'ils viendraient plus dans l'Est, verraient comme mon dos, ça a beaucoup changé. On se dit, mon Dieu, ça a beaucoup changé, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, puis tout. Ben c'est ça. Ça a beaucoup changé, et puis beaucoup plus de monde, beaucoup plus de ressources. Fait que...
Oui. Stéphane, si on vient à l'alternative dont tu nous parles aujourd'hui, qui fête ses 20 ans cette année, tu es impliqué à l'organisme. Comment tu vois l'avenir de l'alternative? Est-ce que tu vois est-ce que c'est un peu de la continuité? C'est-à-dire qu'on va toujours avoir besoin en société de services qui sont accessibles aux gens, comme on disait tantôt, des formations, des gens pour aider les gens à mieux s'en sortir. Ben, comment tu vois l'avenir? Hein?
Ben, moi, je pense que oui, parce que personne n'est à l'abri d'une dépression, d'un dérapage ou quelque chose. À ce moment-là, ben, les ressources, les centres de jour sont là pour vous aider, sont là pour vous accueillir, pour venir vous refaire une santé, venir vous refaire une vie, vous redonner votre deuxième chance.
Et d'y aller à son rythme aussi. Tu sais,
comme je disais tantôt, les gens, nous qui viennent, les nouveaux, commencent par un atelier. C'est une de nos règles. Par la suite, si tout va bien, on peut procéder à deux ateliers par semaine, puis peut-être après ça, on verra selon la personne, selon ses besoins.
Ouais. J'aimerais ça qu'on mentionne, Stéphane, l'adresse, en fait, pour les gens qui veulent soit participer aux activités. J'imagine qu'on a juste à appeler puis donner notre nom, puis le processus est assez rapide.
Oui, habituellement, on appelle, puis si on veut un rendez-vous, ça se fait très, très, très rapidement. Alors, l'adresse, c'est le 11813 rue Notre-Dame-Est, près de Saint-Jean-Baptiste. Donc, 11813 Notre-Dame-Est, près de Saint-Jean-Baptiste. On téléphone dans le 514-640-1200, 514-640-1200.
Et on peut évidemment s'informer sur les activités au site web www.l'alternativecentredejour.org. Ça, c'est l'adresse pour avoir le plus de détails possible sur vos...
Au niveau de la programmation, évidemment, c'est saisonnier. Hein? La programmation change avec les saisons, donc il ne faut pas que vous pensiez que cette programmation-là est là pour l'année. On change trois fois par année. Donc,
En terminant, il nous reste peut-être une minute. Qu'est-ce que tu trouves qui a peut-être été la programmation l'activité la plus intéressante de ces dernières années, tu sais, d'après les commentaires des membres, tout ça? Est-ce que s'il y a quelque chose qui a vraiment bien marché et qui a été tu sais, comme peut-être une surprise? Là?
Bien, c'est sûr que le projet radio, nous, on ne l'a pas vu venir. On a été même un peu surpris de cette nouvelle-là. Et puis, finalement, ça a été un franc succès. Écoute, toute l'équipe y a cru, les gens se sont impliqués. Puis, ça a été vraiment un des bons
apprécié,
boosts.
Ouais. C'est intéressant de l'entendre. Moi aussi, j'avais beaucoup de facilité et de plaisir à aller vous voir il y a 5 ans.
Puis au niveau des activités, il y a des activités qu'on a depuis 5-10 ans que les gens aiment, reviennent. Donc, si les gens veulent venir, là, je vais prendre un petit café, jeter un petit coup d'œil. Là, vous êtes les bienvenus à l'Alternative.
Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été des nôtres. C'était très intéressant. Puis bon 20e pour l'Alternative. Puis à une prochaine.
Bien, à une prochaine, Yvan. Un bon merci à toi.
Merci.
Connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
De retour au micro à l'Espresso allongé, le sujet entamé plus tôt à l'Espresso, le génie de la folie, Pierre, et Ghislain toujours en notre compagnie.
Toujours nous.
Alors, on poursuit le sujet qui est très intéressant.
Oui, comme je disais, on a maintenant de plus la preuve de plus en plus concrète que, oui, le génie, c'est-à-dire la créativité, est proche de la folie. Et je continue ma lecture de cet article de M. Clément Guillet, qui est psychiatre et journaliste français. Alors, il nous dit « La schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, les addictions, les troubles anxieux ou le suicide, être auteur semble dangereux pour la maladie mentale ou une santé mentale défaillante semble devoir pousser à l'écriture. » C'est pas trop rassurant pour ceux qui aiment écrire. D'ailleurs, toi, Ghislain, j'ai dispensé, t'aimes beaucoup écrire.
Je suis peut-être pas si extrême que ça. Inquiétez-vous pas, j'ai pas de chance de me garocher dans le fleuve Saint-Laurent.
des statistiques qu'on pourrait illustrer par les dessins de Verlaine, qui était alcoolique, Virginia Woolf et Hemingway, qui étaient bipolaires et se sont suicidés, ou encore Michel Houellebecq, un dépressif. Autre découverte, l'étude montre que les parents, les frères et les sœurs des patients schizophrènes, bipolaires, anorexiques ou autistes exercent plus souvent des professions créatives que la moyenne. Un lien entre créativité et maladie mentale semble donc bien exister si l'on prend en compte la famille dans sa globalité. Il est clair qu'une œuvre est le résultat d'un travail et d'un contexte favorable, mais remettre en cause des normes, trouver des solutions inédites est indispensable. C'est la créativité. En fait, la définition que l'on donne à la créativité sur l'Internet, on voit souvent capacité ou pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau.
C'est bien dit.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi dire que ça prend ça aussi, parce qu'il faut quand même dire que faut que tu aies un sujet, faut que tu redéfinisses, c'est-à-dire un problème social quand tu écris. Tu veux parler de quelque chose.
Ouais. Là, ça peut être du divertissement aussi.
Mais il faut que tu parles quand même, faut que tu aies un art. Il y a du divertissement qui est profond. Le divertissement, c'est pas juste comme.
C'est pas juste léger.
Léger comme un biscuit
fade.
Fade, là.
Ouais, effectivement.
Alors, je poursuis ma lecture de l'article de M. Clément Guillet. Il nous dit, selon les auteurs de l'étude, le lien familial entre les personnes créatives et des pathologies comme la schizophrénie, le trouble bipolaire ou l'autisme pourrait avoir un rapport avec trois composantes de la créativité. Premièrement, la capacité à faire des associations inhabituelles qu'on trouve dans la schizophrénie et dans la personnalité schizotypique. Deuxièmement, la motivation et le surinvestissement qu'on retrouve avec le trouble bipolaire. Et troisièmement, un intérêt intense et restreint pour certains domaines, qui fait penser aux traits autistiques. Ce n'est pas la première fois que le trouble bipolaire a été supposé propice à la créativité. À la phase dépressive, son lot de remise en cause succède la période d'hypomanie qui peut permettre son expression. Intense activité, fluidité des idées, confiance en soi, insomnie, sans fatigue, autant de symptômes qui peuvent favoriser la créativité. La création peut aussi être un catharsis des troubles de l'humeur, comme l'écrit Antonin Artaud, acteur français. Nul n'a jamais écrit ou peint, dit-il, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir, en fait, de l'enfer. Peut-être qu'il va un peu loin, mais c'est son opinion.
C'est imagé.
Hein? Oui, ouais. En général, il faut qu'il y ait des familles qui aiment la culture. Un exemple, même si quelqu'un... Tu sais, les Arcan, il y a Denis qui est cinéaste, Gabriel, puis Bernard qui est anthropologue. Leur père était marin. Je ne sais pas s'il aimait la culture. Leur père était comme pas vraiment propice.
Des fois, si un frère aîné va influencer les autres, ça peut être ça aussi.
Ou des familles qui aiment la culture, mais qui ne sont pas riches.
Des fois, le patrimoine génétique, ça peut sauter une génération. Si quelqu'un peut être créatif, mais il retient ça de son grand-père.
Puis c'est pas nécessairement. J'ai l'impression qu'on ne retient pas nécessairement non plus de nos ancêtres. T'sais, là-dessus, ça peut être que nous-mêmes, on est fait comme ça.
C'est vrai. Ou l'amour de la scolarité aussi.
Aussi, c'est ça. C'est pas nécessairement une hérédité. Là.
Alors, M. Pierre Guillet continue en disant. Mais les auteurs rappellent aussi que lorsque les symptômes deviennent trop intenses, la créativité s'effondre, traçant une relation entre créativité et psychopathologie. Maintenant, il pourrait y avoir aussi une véritable explication neurologique. Certains auteurs ont même recherché une explication neurobiologique. En 2010, une étude dirigée par le docteur Oriane de Manzano au sein du même institut suédois avait étudié la présence de récepteurs de dopamine chez des personnes saines créatives. Et il avait constaté que, comme chez les personnes souffrant de psychose, ces récepteurs manquaient dans une zone particulière du cerveau, c'est-à-dire le thalamus. Un déficit qui pourrait expliquer un moindre filtrage conduisant à des idées novatrices chez les personnes créatives ou des idées délirantes chez les schizophrènes. L'étude menée par le docteur Chiaga, la plus complète à ce jour sur le sujet, vient donc valider une intuition ancienne. Il existe effectivement un lien entre folie et créativité, et ce lien n'est ni nécessaire ni suffisant à la réalisation d'une œuvre, et les hôpitaux psychiatriques ne sont pas remplis d'artistes en devenir pour autant. Mais cette nouvelle approche éclaire d'une autre lumière la création et contribue à déstigmatiser la pathologie mentale.
Moi, je pensais que la plupart des hommes voulaient devenir artistes pour impressionner les filles. Parce qu'en général, c'est pour ça que beaucoup de gars qui le font.
Oui, mais je pense qu'ils ont quand même un talent de base.
Oui, un talent de base, mais il y a aussi des, comme on a dit, j'ai pas l'expression en français, malheureusement, qu'on appelle des fringe benefits, c'est-à-dire que les gens essayent de profiter.
Là. Il y a des incitatifs, en fait.
Oui, c'est le mot.
Merci Pierre, pour ce beau sujet. Donc, le génie de la folie. Merci, Jocelyn, pour ta participation également. Demeurez avec nous à Folie Douce.
We'll be right back. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, c'est en ma compagnie Ghislain Malo. Bonjour Ghislain. Alors, bonjour. On va y aller avec nos chansons écoutées cette semaine. On écoutait en début d'émission Mes idéaux.
De Dumas.
On écoutait J'ai retrouvé mon mojo.
D'Anaïs.
Oui. Dans la deuxième partie de l'émission, on écoutait Reste avec moi.
Du groupe Pépite.
Et à l'instant, Chainsaw.
De Tire le Coyote.
Mais voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. À toi et à Pierre. Merci de ta participation également merci au micro beaucoup. Pour les espressos et espresso allongés. Merci Pierre Laporte à la mise en onde.
Bienvenue.
Et merci pour ton sujet que tu nous as amené dans les espresso, donc le génie de la folie. C'était très intéressant. Je remercie également notre invitée en début d'émission, Caroline Beauregard, qui nous a parlé de l'école d'été en art thérapie de l'UQAT. Et on avait aussi Stéphane Bellumeur qui nous a parlé des 20 ans de l'alternative. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.